Il y a cette légende urbaine qui raconte qu'il y aurait un rat par habitant en ville. Un rat par habitant en ville. Vous la connaissez ? Sachant que 56% de la population mondiale habite en ville, ça ferait 4,4 milliards de rats. Certains spécialistes affirment même qu'il y a des villes qui abritent 2 rats par habitant.
En fait, on connaît peu ou pas le nombre de rats dans les villes, donc c'est vraiment une estimation. C'est possible qu'il peut y en avoir moins. Ça dépend aussi de la nourriture disponible, mais on connaît mal en fait le nombre de rats qu'il y a dans les villes.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode fait de moustaches, de poils, de plumes et de carapaces aussi. Bref, de tous les animaux qui vivent parfois contre notre gré en ville. Souvent, on les déteste, ces animaux. Parfois, on les ignore. C'est Joëlle Salomon-Cavin qui va nous faire découvrir ces bestioles. Elle est géographe, spécialiste des relations ville-nature et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Elle est également autrice du livre « Indésirables, les animaux mal aimés de la ville », paru aux éditions 41. Et c'est vrai, les rats, on ne les aime pas. Mais ce n'est pas pour rien, non ? Ils nous dégoûtent.
Parce qu'ils habitent principalement dans les égouts, qui est un endroit sombre et sale. Du coup, ils sont associés à la saleté, à la noirceur aussi. En plus, ils ont quand même une histoire un peu chargée en relation avec la peste, par exemple, et la maladie.
Eh oui, donc on a raison de s'en méfier, non ? Ce sont des bombes à retardement qui n'attendent que de nous transmettre les pires fléaux de l'humanité.
Les rats qu'on trouve actuellement en ville, ce ne sont pas du tout les rats de la peste. Les rats de la peste, c'est le rat noir, qui a pratiquement disparu des villes, chassé par son cousin, qui est le rat surmulot, rat norvégien, qui lui ne transmet pas la peste en fait. Il y a une maladie qui est liée au rat brun, enfin le rat surmulot, qui est la leptospirose, mais pas la peste en fait, voilà.
Ah, je ne le connais pas ce rat norvégien. Alors, il véhicule la leptospirose, une maladie bactérienne, mais avec un minimum d'hygiène, la désinfection des plaies par exemple, on ne risque pas grand chose. La maladie est souvent bénigne, même s'il faut la prendre au sérieux. Mais c'est nettement moins grave que la peste. Il a vraiment des origines vikings, ce rat norvégien ? Je l'imagine avec un casque.
Il vient de l'Est et de Russie en particulier. Le rat surmulot a trouvé en ville absolument tout ce dont il avait besoin. Alors il faut savoir que, ok, il vit avec nous, mais le rat surmulot fuit l'homme, il est assez timide. Et en fait, la ville moderne, avec ses égouts, lui a offert le plus beau des gîtes. C'est une historienne, Ergate Vergaloupoulos, qui le dit. La ville moderne a offert au rat ses égouts, qui sont des espaces sombres, humide et surtout où il y a une nourriture en abondance. Donc le rat, finalement, a trouvé là le meilleur des endroits pour vivre. Et en temps normal, on trouve peu le rat en surface. Donc finalement, l'homme cohabite peu avec le rat. Il y a 2 étages. Le rat est en dessous et puis l'homme au-dessus.
Mais il habite quand même dans les égouts. Et ce n'est pas un exemple de propreté.
Alors j'ai entendu il n'y a pas longtemps un spécialiste du rat qui disait qu'il se lave 7 fois par jour en moyenne. Donc finalement pas si sale que ça. Il est associé à la saleté encore une fois parce qu'il habite un endroit réputé sale.
7 fois par jour, mais avec de l'eau des égouts. Alors, au passage, ce rat nous a débarrassé du rat noir porteur de la peste. On le remercie humblement pour ce service inestimable. Mais est-il pour autant désiré en ville ? Il aurait pu retourner dans ses steppes natales après avoir fait son job. Après tout, si on a construit la ville, c'est bien pour nous éloigner d'une nature un peu trop présente.
On considère la ville comme le lieu par excellence des humains. Les animaux, finalement, ont été petit à petit chassés de la ville. Il faut imaginer, jusqu'au 19e siècle en tout cas, une ville pleine d'animaux. Il y avait des chevaux, il y avait tous les animaux pour la viande qui étaient élevés en ville. Et finalement, la ville hygiéniste a chassé ces animaux de la ville pour des raisons d'hygiène, justement, ou de maladie. Et finalement, la ville dans laquelle on vit actuellement est une ville où on pense choisir les animaux qui s'y trouvent. À commencer par nos animaux domestiques, le chien, le chat. Il y a des animaux qu'on apprécie et qu'on tolère, comme les oiseaux en particulier, les animaux qu'on trouve dans les parcs, qui sont des lieux pour la nature. Ça, c'est bon quand on les trouve là. Et puis après, il y a tout un tas d'animaux, en fait, qui arrivent en ville alors qu'on ne les a pas choisis et qui sont plus ou moins appréciés ou désirés.
Mais tout ceci doit aussi être très culturel. Un lézard, dans mon appartement au centre-ville de Genève, ça me ferait bizarre. Pourtant, un gecko dans une ville exotique, je trouve ça charmant.
Je me suis intéressée aux différentes cultures. Et la première remarque, en fait, c'est que je me suis aperçue que d'un pays à l'autre, les animaux non désirés, c'était souvent les mêmes, d'une manière générale, comme le rat, le cafard, le moustique. Même s'il y a des pays où le rat est apprécié, voire vénéré, comme certains endroits en Inde. Après, il y a des différences culturelles. Je me suis notamment intéressée aux geckos en Thaïlande. Alors, comme touriste, quand on va en Thaïlande, on les trouve super mignons, les geckos. Donc, c'est des petits lézards qui ont des pattes qui s'accrochent comme ça, avec des petites ventouses qui s'accrochent au mur. Et en fait, en Thaïlande, on les aime pas, les geckos. Il y a tout un tas de légendes autour d'eux. Il y a une petite chanson qu'on chante aux enfants pour qu'ils s'endorment et qui est dors mon enfant, si tu ne dors pas, le gecko te mangera le foie. Partant, le gecko est associé à des choses négatives. Si un gecko tombe sur vous, c'est signe de malheur. Alors qu'on aurait tendance à le considérer comme une bonne chose parce qu'il mange les moustiques. Mais en l'occurrence, c'est vraiment culturel. Mais un peu comme chez nous, le rat, qui est quelque chose qu'on n'aime pas.
Mais au fond, qui sait combien d'animaux vivent dans nos espaces urbains ?
Le recensement est souvent très difficile. Il y a souvent des comptages qui sont faits s'il y a un problème lié à ces animaux. Par exemple, pour les pigeons, je sais que les villes en Suisse font des comptages des pigeons pour savoir en fait si les mesures qui visent à en limiter la reproduction sont efficaces ou non. Du coup, il y a des recensements du nombre de nids, par exemple, pour évaluer la population. Mais très souvent, c'est assez compliqué en fait d'évaluer le nombre d'animaux en ville.
Et finalement, on ne se préoccupe de leur présence que lorsqu'ils représentent une nuisance, quand il y a une surpopulation, qui commence à partir de combien d'individus ?
Il y a une surpopulation quand il y a un problème effectif. Fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un problème, entre guillemets, pigeon à Lausanne, qui était en particulier lié à une personne qui nourrissait, mais de manière assez industrielle, les pigeons en ville. Donc tous les matins, c'était des dizaines et des dizaines de kilos de graines qui étaient déversées sur les places lausannoises. Et suite à ça, il y a eu une surpopulation de pigeons qui a eu des effets importants, en particulier sur le pont Bessières, où les pigeons nichaient. Et en fait, la fiente de pigeon a commencé par corroder la peinture et après la structure du pont. Ça a coûté très très cher de rénover le pont et face à cela, enfin, la ville de Lausanne a réagi en développant une politique pour réguler la population de pigeons.
En gros, la plupart du temps, on ferme les yeux sur les habitants non humains des villes. Mais si ça se trouve, ils évoluent. Ils deviennent de nouvelles espèces à part entière. Et peut-être même qu'ils sont sur le point d'inventer une nouvelle civilisation, ou l'écriture, ou la fusion à froid.
Oui, il y a beaucoup d'exemples. Alors, pas uniquement les animaux mal aimés, je dirais. Si je commence par les animaux mal aimés, si on parle des plus, ceux qui nous embêtent le plus parce qu'ils sont chez nous, les punaises des lits ou les blattes germaniques se sont parfaitement adaptés à nos appartements. Ils ont trouvé dans les appartements exactement ce dont ils avaient besoin. Pour donner d'autres exemples d'adaptation, aujourd'hui, une branche de l'écologie qui s'appelle la biologie de l'évolution s'intéresse en particulier à la ville pour montrer qu'il y a tout un tas d'espèces qui se sont adaptées extrêmement rapidement à l'environnement construit. Par exemple, pour certains oiseaux, leurs ailes se sont raccourcies pour pouvoir passer plus aisément entre les bâtiments, mais aussi entre les voitures. Il y a aussi l'exemple de grenouilles. Ça, c'est en Australie. Le chant des grenouilles ne passait pas avec le bruit urbain. Du coup, les mâles, leur chant est devenu plus grave pour qu'ils puissent se faire entendre de leurs comparses. C'est une évolution des espèces à la ville.
Des oiseaux qui se coupent les ailes, des grenouilles qui deviennent barytones au lieu de ténors, la ville fait donc bien évoluer les animaux sous nos yeux. Ce sont des exemples qui nous touchent, car la ville a aussi eu des effets sur nous. « Mais s'il y a bien une classe d'animaux qu'on a vraiment de la peine à trouver mignons ou à voir évoluer, ce sont les insectes.
En fait, les insectes représentent une sorte d'altérité par rapport à, l'espèce humaine. Le fait qu'ils ne nous ressemblent pas du tout, qu'on ne comprenne pas les comportements, qu'il n'y a pas de regard d'insecte, comme il peut y avoir chez un mammifère, où on a l'impression de pouvoir rentrer en contact, pas de compréhension avec l'insecte. Il y a l'effet de la pullulation aussi. En voir un, c'est quelque chose, mais en voir une multitude, c'est autre chose.
Pas de contact. Certains insectes cherchent clairement un contact avec nous, même si nous, on n'est pas consentants.
Il y a une proximité qui peut être douloureuse, voire une promiscuité, une présence proche qui est souvent douloureuse avec les insectes, même s'il y a tout plein d'insectes qu'on apprécie par ailleurs.
N'empêche qu'ils ont quand même trop de pattes quand on y pense.
Absolument, il y a souvent trop de pattes. Ou pour les arthropodes en général, si je pense aux araignées, il y a trop de pattes, quoi. Voilà. Ça nous va pas. Mais c'est par rapport à l'idée qu'ils sont vraiment trop trop différents de nous, en fait.
Bon, peut-être que j'exagère. Certains insectes ont quand même gagné leur lettre de noblesse. La fourmi, par exemple, travailleuse et symbole de nos anciens billets de 1000 francs suisses.
En effet, dans le bestiaire du Moyen-Âge, ou même religieux, la fourmi est travailleuse, elle vit dans un collectif, elle participe à ce travail, même chose pour l'abeille. Ce sont aussi des animaux qui ont été énormément étudiés et qui fascinent aussi par leur organisation collective, leur organisation sociale. Il y a une analogie avec leur organisation humaine, et c'est pour ça qu'on les trouve quelque part sympathiques.
Alors que le cafard, pas du tout.
Alors même qu'on sait qu'il y a une organisation sociale, que le cafard seul déprime, ça a été montré. Le cafard vit dans un collectif, il peut dire à ses congénères s'il y a une source de nourriture. Donc il y a une organisation collective chez le cafard, mais qui nous fascine beaucoup moins en fait. Le cafard est associé à des choses très très négatives, à la saleté, mais aussi au cafard, avoir le cafard, il y a toute cette idée de la noirceur associée au cafard. C'est beaucoup lié à l'imaginaire collectif, hein, à une espèce de capital sympathie lié à l'histoire. Et le cafard fait partie de ces animaux noirs associés à des choses qui peuvent être négatives.
Alors soyons clairs, si le cafard a besoin de compagnie, qu'il reste avec ses congénères. Et ce cafard, il n'est pas sans rappeler le pire cauchemar des insectes qui s'introduisent chez nous. La punaise de lit. Elle, en plus, elle ne se nourrit que de nous.
Oui. On est la proie, en fait, d'un animal, oui. Elle habite avec nous, en fait, depuis, je dirais, depuis toujours. Sans doute s'est-elle intéressée à l'homme au moment où celui-ci ou ses ancêtres habitaient les cavernes. Elle était plutôt intéressée à l'époque aux chauves-souris. Sans doute s'est-elle a-t-elle goûté au sang humain et à partir de là, elle s'est adaptée à l'homme, notamment en devenant nocturne et du coup en suivant l'homme dans tous ses habitats. Et c'est vrai que l'urbanisation, les concentrations humaines qui sont sa nourriture ont favorisé le développement de la punaise d'Eli.
Et elle nous colle au basque depuis le début de l'humanité. Mais c'est pas pour autant qu'on l'aime, ce parasite.
Elle véhicule aucune maladie, la punaise d'Eli. Par contre, elle provoque des maladies, psychologiques. On parle de choc post-traumatique par rapport aux effets de la présence de la punaise d'Eli. Il faut savoir qu'elle vous empêche de dormir. Et ça rend fou, en fait, de pas dormir. C'est extrêmement angoissant d'être attaqué par un insecte, en fait, que vous voyez pas. Donc, en général, elle vous pique la nuit, elle se nourrit sur vous. Ça veut dire que vous êtes dans l'endroit, a priori, le plus intime et quelque part le refuge ultime de l'appartement, c'est-à-dire votre lit, et vous vous faites attaquer. Donc, ça a des conséquences psychologiques très importantes, mais elle ne véhicule pas de maladie.
Blattes, punaises de lit, moustiques, éventuellement poissons d'argent. En fait, nos logements modernes grouillent de bestioles.
Alors, c'est un biologiste qui s'appelle Rob Dune. C'était un entomologiste qui était spécialiste des termites et qui travaillait à l'autre bout du monde. Et il se rendait compte qu'en fait, chez lui, il y avait plein d'espèces dans son appartement qu'il ne connaissait pas. Et il est à l'origine d'un des plus gros inventaires des espèces de l'appartement. Et ce faisant, il a trouvé énormément d'espèces qu'on connaissait à peine, voire pas. Et surtout, une quantité énorme d'insectes. Et c'est pour ça que son ouvrage s'appelle « Jamais seul à la maison ». On n'est jamais seul parce qu'il y a plein de choses qu'on n'imagine même pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont microscopiques, de l'ordre de la bactérie, mais aussi énormément de champignons, et puis énormément d'arthropodes, donc des insectes, des acariens, voilà. Et la plupart ne nous font, ni chaud ni froid, sauf si on est allergique, mais sinon, ils vivent leur vie chez nous, sans nous causer de tort.
toute une chaîne alimentaire prend place dans nos villes et nos habitations. Les acariens mangent nos restes de peau, les araignées mangent les acariens, les moustiques nous mangent, les oiseaux mangent les insectes, bref, c'est le festival du food truck. Et puis, au milieu de cela, il y a les pigeons, omnivores, de véritables rats volants.
Sans doute, cette expression remonte à un film de Woody Allen, qui voit un pigeon rentrer dans son appartement en hurlant, et puis dit « Ah !» Un rat volant, et puis c'est resté, en fait, dans les annales. En fait, les pigeons, ils ont été amenés en ville par les citadins. À une époque, on les trouvait magnifiques. Darwin parle des pigeons, en fait, qui étaient élevés. Il y a des très, très belles gravures qui montrent combien les pigeons étaient élevés et sélectionnés pour leur beauté. Ils avaient des crêtes, des très beaux plumages. Hein. Et puis, ils étaient aussi utilisés pour la nourriture. On mangeait du pigeon. Et finalement, pour la course.
Ou pour les utiliser comme des pigeons voyageurs. Mais un voyageur revient souvent à son point de départ. Donc cette nuisance, aujourd'hui, elle nous vient essentiellement du fait qu'on a préféré remplacer le volatile messager par le fil, et puis par des antennes de nos moyens de communication modernes. Le pigeon des villes est donc une espèce domestique retourné à l'état sauvage.
Alors c'est ce qu'on appelle le pigeon biset, il y en a d'autres mais c'est le plus courant et en fait il s'est développé en ville, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, à la faveur en fait du développement de la société de consommation et de ses déchets. Le pigeon trouve en ville tout ce qu'il faut pour se nourrir puisqu'il est très ouvert, hein. Il n'a pas du tout peur de l'homme et il n'a pas de prédateurs pratiquement en ville. Il niche à peu près partout. Son habitat d'origine, ce sont des falaises en Sardaigne. Les immeubles urbains correspondent exactement à ces falaises. Alors aujourd'hui, il y a quelques prédateurs qui sont revenus en ville. Par exemple, à Lausanne, il est chassé par l'autour des palombes ou bien le faucon cresserelle qui viennent en fait de la campagne pour chasser les pigeons en ville. Mais ces oiseaux-là avaient pratiquement disparu à la suite de l'utilisation de produits phytosanitaires dans les zones agricoles. En fait. Et aujourd'hui, ils reviennent. Et du coup, ces prédateurs-là régulent la présence des pigeons.
Cela dit, si je comprends bien que des animaux que nous avons domestiqués par le passé préfèrent rester en ville, je ne comprends pas vraiment pourquoi des animaux sauvages décident de devenir citadins. Alors oui, il y a le faucon cresserelle. Lui, il est beau et il trouve à manger. Mais le renard, la fouine... Il ne serait pas mieux à la campagne ?
Alors, la problématique des animaux qui arrivent en ville aujourd'hui est liée d'une part à la disparition de leur habitat naturel. La ville grignote l'habitat naturel de ces animaux-là et quelque part, ils arrivent naturellement en ville où ils trouvent de la nourriture et parfois même de la tranquillité, ce qui peut paraître paradoxal, mais il y a un certain nombre d'animaux qui sont chassés dans les espaces ruraux. Je pense aux renards, mais je pense aussi aux sangliers. Et du coup, la ville devient un refuge pour ces animaux-là où ils ne sont pas chassés, finalement. Ceux qui viennent en ville sont très adaptables aussi. Le bruit, le monde ne les dérange pas. Ils arrivent à se trouver des petits endroits pour se reproduire.
Ça va être compliqué de traverser au passage piéton avec des hordes de sangliers. Les animaux n'arrivent donc pas en ville, ce sont aussi nos espaces urbains qui arrivent jusqu'à eux. En tout cas, ils ont de moins en moins le choix. Toujours est-il qu'il y a encore une nature en ville, alors comment la définir ?
Waouh ! Alors, vaste question. Depuis que je travaille sur ce sujet des animaux indésirables, j'aime bien dire, quand on vous dit nature en ville, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez ?
Moi, je vois des rouges-gorges, des mésanges, oh, un petit hérisson. Beaucoup d'oiseaux, en fait. Des mulots. Oui, des mulots, mais pas de rats.
L'idée générale, c'est que la nature, elle l'est, si on veut bien. Elle est ni sympathique, ni antipathique. Elle est là. Différentes formes de nature sont bénéfiques à l'humain, et d'autres beaucoup moins. Et l'idée générale, c'est qu'il faut faire avec.
Mais faudrait-il prendre plus de temps pour faire connaissance avec cette faune qui grouille partout ?
Ce qui est évident, c'est que pour vivre avec... Je dirais pas cohabiter, parce que on peut pas cohabiter avec des punaises de lit, c'est pas possible. Vivre avec, c'est connaître, ouais. Connaître, ça veut dire adopter les bons comportements pour que finalement cette ville multi-espèces puisse faire que les humains vivent dans de bonnes conditions. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut tout à fait vivre dans une ville où il y a des rats. Par contre, on peut pas vivre avec des rats chez soi. Si on l'a pas choisi, je parle pas des rats comme espèce domestique. Et pour empêcher cela, il faut des infrastructures en bon état, parce qu'en général, la présence des rats est liée au fait que voilà, il y a des problèmes avec les égouts, il y a des trous, des choses comme ça. Elle est liée à la présence de déchets qui sont mal gérés. Quand je parle de connaissances, la punaise des lits, c'est un excellent exemple. On en parle beaucoup. Le problème actuel, c'est qu'on a perdu des connaissances qu'on avait au début du XXe siècle, où les punaises des lits étaient extrêmement présentes. Le DDT a fait disparaître les punaises de lit, puis elles sont revenues en nombre dans les années 90. Il y a des moyens d'éviter la pullulation des punaises de lit. Déjà, des gestes à adopter. Dès qu'on voit des petits points noirs sur un matelas, c'est très mauvais signe et il faut agir rapidement. Je sais pas, on parlait des pigeons, c'est pas du tout une bonne idée de les laisser nicher sur son balcon, parce que la fiente des pigeons, quand on la nettoie, ça vaporise des choses qui sont assez toxiques. C'est des connaissances naturalistes, finalement, à développer pour tout un tas d'animaux. Il faut parler des pigeons, il faut parler des rats, il faut parler des punaises de lit et des blattes germaniques. Et pour parler de ces animaux-là, on a aussi des choses passionnantes à en apprendre.
Bon, justement, ils sont utiles, ces rats ? Parce que moi, quand même, ils me donnent des frissons dans le dos. Même si j'ai bien aimé le film Ratatouille, là n'est pas la question.
Il y avait une exposition rat à Neuchâtel il y a pas mal d'années qui était très bien faite, où on montrait que finalement, si le rat avait une queue d'écureuil, on le trouverait super mignon. Je sais qu'au Canada, les écureuils sont plus appréciés parce qu'ils sont extrêmement nombreux et très entreprenants aussi. Alors, le rat, on entend souvent l'idée qu'il participe à l'écosystème urbain en mangeant tout un tas de déchets qu'on trouve dans les égouts. Ils aident à faire en sorte que les égouts fonctionnent bien, donc ils nous sont utiles aussi. Je sais pas si c'est ça qui va les rendre sympathiques.
Bon, ok. On fera avec les rats. Si on devait résumer, c'est une bonne nouvelle ou pas, si les animaux reviennent en ville ?
Que la ville soit biodiverse, c'est une excellente nouvelle. Qu'on produise des quartiers ou qu'on favorise la biodiversité, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quand vous voyez les projections pour la ville du futur, c'est une ville végétale partout. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on oublie souvent qu'avec le végétal, il y a de l'animal. Alors pareil, on ferme les yeux, on voit des jolis papillons, on voit des oiseaux. Mais il y a aussi plein d'insectes, et en particulier des moustiques, qui peuvent être moins sympathiques. Donc il faut, encore une fois, avoir en tête que la biodiversité, elle est diverse, comme son nom l'indique. Et il y a des types de nature qui nous sont bénéfiques et d'autres beaucoup moins. Il faut juste avoir ça en tête et finalement apprendre à vivre avec une nature qui est complexe. Pas sortir son pchit, sa bombe, dès qu'il y a un moustique qui arrive, alors qu'on habite un quartier durable et qu'on a fait en sorte qu'on a des superbes matériaux, on a de la végétation partout. Mais avec la végétation, il y a des insectes. Donc éviter de sortir tout de suite les bombes chimiques pour se débarrasser de ce qu'on n'aime pas finalement. Trouver d'autres moyen de faire avec cette nature qui est diverse.
Mais au fait, nous aussi, nous sommes des animaux. Et peut-être même que c'est nous qui sommes les indésirables pour ces locataires des cités. Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur PlayRTS ou votre plateforme d'écoute préférée.
Pourquoi je n'ai que deux bras ? Que se passe-t-il quand je dors ? Le zèbre est-il blond ? Avec des rayures noires ou noires avec des rayures blanches. Les virus sont-ils utiles ? Dois-je me remettre au sport ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Et si vous avez des questions, écrivez-nous sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et tiens d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les punaises de lit, ne manquez pas l'épisode du Point J.
Le Point J.
Consacré à ce sujet. On le mettra en lien dans la description de cet épisode. Dans l'équipe de Microsciences, il y a Léon, Louis, Lisa, Jean, Leïla, Augustine, Paul, Marie, Pierre, Stanislas et les 10 791 autres acariens qui vivent leur vie en ce moment même sur notre visage. Et puis, il y a la mésange charbonnière, Camille Dupont-Lahitte, coproductrice souvent à la mine. Et il y a notre hérisson préféré, Jérôme Nussbaum, à la réalisation et à l'habillage musical. On ne l'entend pas, mais il débarrasse le son de tous ses parasites et il possède une ouïe hors norme. Et il y a moi, Uma Camis, journaliste scientifique, qui papillonne d'une découverte à l'autre. À bientôt.